VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Biron, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'Union africaine, dont le sommet annuel s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi, s'est engagée à être plus active et plus efficace dans la médiation des conflits qui déchirent le continent, et en particulier sur le dossier libyen dont elle a jusqu'à présent largement été exclue. En Libye, l'ONU, principal médiateur, a besoin de nous maintenant, a assuré lundi Smaïl Cherghi, le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. Le conflit au Soudan du Sud a également été évoqué. Monsieur Ramaphosa, le nouveau président de l'Union africaine, a rencontré ses parlements samedi soir, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. En raison de retard sur le programme, le sommet s'est achevé tôt ce matin et les traditionnelles sessions de clôture et conférences de presse de fin de sommet ont été annulées. Les décisions adoptées devraient être communiquées aujourd'hui dans la journée. Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février bat son plein. Offensive de charme en direction des électeurs qui, de leur côté, expriment leurs attentes. Elles vont de l'économie au social en passant par les droits humains, nous dit notre correspondante à Lomé, Kayla Osson.
Les candidats à la présidentielle du 22 février prochain sont sur le terrain. Ils sillonnent tout le pays à la rencontre des électeurs. Des électeurs qui privilégient ces moments pour faire part de leurs attentes. Pour Basile Ataï, la quarantaine avancée, conducteur de taxi-moto, le futur président doit s'assurer que la devise du Togo, qui est travail, liberté, patrie, devienne une réalité.
Ce que nous attendons, le futur président, c'est travail, liberté et patrie. Nous voulons travailler. C'est à cause de ça qu'on cherche un bon travail, un bon paiement. Et on veut la liberté et la sécurité. Si on dit qu'avec cette élection, rien ne peut plus changer, c'est faux. Parce que ça sent bien que ça change.
Lors des rencontres avec les populations, le président sortant brandit un bilan ponctué par des performances économiques et sociales. Abdou Kerim, distributeur de journaux à Lomé, estime que le plus important est que la croissance puisse profiter à la population.
Ce que j'attends du futur président, c'est que l'économie puisse bouger. Nous voulons des grands investissements qui permettent de toucher la grande population. Parce qu'on parle de croissance, mais cette croissance n'est que l'ivresse. Ça ne touche pas le grand peuple. Mais nous voulons que cette croissance touche aussi le peuple pour que le peuple puisse se débrouiller dans les différentes sphères de leurs activités.
Le meilleur programme de société pour le quinquennat 2020-2025 doit avoir pour priorité trois domaines que sont l'économie, l'éducation et la santé. Tel est le point de vue du commerçant Justin Kossi.
L'économie du Togo, aujourd'hui, ça ne va pas parce que les jeunes sont en chômage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la valorisation du prime des enseignants. Et le troisième point, la santé. Parce que nos hôpitaux ne sont pas dotés du scanner.
De toutes les attentes, celle qui revient le plus est l'instauration de l'état de droit.
Un président qui prend en compte la démocratie, le respect des droits de l'homme, de tous les droits, je veux dire, droits politiques, sociaux, économiques, la liberté d'expression.
Nous voulons vivre dans un état de droit où le droit de chaque citoyen est respecté à la hauteur de ses mérites.
Que ce futur président commence par respecter les droits de l'homme, que les libertés soient octroyées aux citoyens. Nous voulons qu'il n'y ait plus d'impunité. Pour qu'il y ait la paix sociale.
Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 de ce mois pour élire leur futur président. Ce scrutin est une élection uninominale à deux tours, une première depuis 2002. C'est également la première fois que les Togolais de l'extérieur vont voter lors d'un scrutin national. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
La CEDEAO a exigé de la Cour suprême de Guinée-Bissau qu'elle agisse d'ici vendredi pour sortir ce pays de l'impasse politique dans laquelle il est plongé depuis le second tour contesté de l'élection présidentielle. Cinq semaines après le second tour du 29 décembre, l'issue demeure disputée entre Oumarou Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et donné vainqueur par la Commission nationale électorale, CNE, et Domingos Simoes Pereira, le candidat du PAIGC. Le président guinéen Alpha Condé a laissé lundi la porte ouverte à une candidature pour un troisième mandat et défendu la tenue le 1er mars d'un référendum constitutionnel dénoncé comme une manœuvre, estimant qu'il n'y avait rien de plus démocratique. Ça, c'est le parti qui décidera, a déclaré M. Condé, interrogé sur une nouvelle candidature lors d'une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale. Son parti, le RPG, peut me présenter comme il peut présenter quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci, à faire valoir le président guinéen. En République démocratique du Congo, les magistrats ont entamé hier un mouvement de grève illimitée. Ils réclament un salaire décent et de meilleures conditions de travail. Eddy Sango.
Aucune audience n'a eu lieu depuis hier dans les tribunaux du pays. À Kinshasa, les magistrats ont manifesté devant l'esplanade du palais de la justice. Ils ont crié leur colère. Ils exigent que le gouvernement rencontre les propositions du Conseil supérieur de la magistrature sur des nouveaux salaires et avantages. Le respect du protocole signé avec la présidence en 2011 a mettrait les magistrats à l'abri de la précarité et donc de la corruption, tant décrié, a expliqué à VOA Afrique Edmond Issofa, président du CINAMAC, l'un des syndicats des magistrats. La justice est souvent accusée d'être corrompue, lente et de rendre les jugements à la tête du client. En 2018, l'ancien président Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats pour corruption. Hier, le ministre de la Justice a entamé des discussions avec des représentants des juges. Le président Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a nommé vendredi des hauts magistrats à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et au Conseil d'État.
Saïd Bouteflika, frère et ex-puissant conseiller du président déchu en Algérie, Abdelaziz Bouteflika et deux anciens patrons du renseignement en Algérie ont vu leur peine de 15 ans confirmée en appel lundi, jugée depuis dimanche par la cour d'appel du tribunal militaire de Blida, à 50 km au sud d'Alger. Saïd Bouteflika, le général Atman Tartag et le général Mohamed Lamine Médiane ont eu 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'armée et de l'État, a déclaré à l'AFP Maître Boudjema Geshi. Des milliers de Kenyans ont rendu aujourd'hui un dernier hommage à l'ancien président Daniel Arap Moi, décédé le 4 février à l'âge de 95 ans. La cérémonie d'hommage national s'est déroulée dans un stade du centre-ville de Nairobi, en présence du président Uhuru Kenyatta. La dépouille de l'ex-chef d'État avait été exposée auparavant au public pendant 3 jours au Parlement. Plusieurs chefs d'État africains assistaient à la cérémonie, parmi lesquels le Rwandais Paul Kagame, le Djiboutien Ismaël Omar Guelleh, l'Éthiopienne Saleh Work Zewde et le Sud-Soudanais Salva Kiir. Le corps de l'ancien président sera finalement inhumé demain mercredi dans sa région natale, à Kabarak, à quelques 220 km au nord-ouest de Nairobi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les forces du régime de Bachar al-Assad et des combattants alliés ont repris aujourd'hui aux djihadistes rebelles le dernier tronçon d'une autoroute clé dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. La reprise de l'autoroute M5 qui relie le sud du pays à la grande ville d'Alep, dans le nord en passant par la capitale Damas, intervient après des semaines d'offensives des rebelles gouvernementales contre des forces gouvernementales du moins contre les djihadistes et les rebelles dans le nord-ouest du pays. Après le caucus de l'Iowa, marqué par le raté informatique du Parti démocrate, le marathon des primaires se poursuit aujourd'hui dans le New Hampshire et vont s'étendre jusqu'en juin pour désigner l'adversaire du président américain Donald Trump à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. 11 candidats côté démocrate sont toujours en lice. Ils vont se départager les 3979 délégués en jeu répartis état par état à la proportionnelle entre les candidats ayant obtenu au moins 15% des voix avec l'objectif d'en réunir une majorité, 1991 au moins, pour s'assurer l'investiture du parti lors de la convention de Milwaukee. Ce sera à la mi-juillet. Formellement, deux personnalités du Parti républicain contestent l'investiture de Donald Trump, mais ils n'ont aucune chance de détrôner le président en sortant. Et puis l'épidémie de coronavirus a causé 108 décès supplémentaires lundi en Chine continentale, soit un nouveau record quotidien, ce qui porte à 1016 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. Le nombre de nouveaux cas de contamination a toutefois reculé, avec 2478 cas recensés au cours de la journée de lundi, compte 3062 dimanches, portant le total à 42 638, a indiqué mardi la Commission nationale de la santé. Jean-Roger Billon à ce micro, aux prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.